Aujourd'hui, la parole est à vous sur sa version environnement. Donc, c'est Jean-Joseph Maglia. On avait fait il y a quelques mois une émission à propos du carbone, le rôle du carbone, le réchauffement climatique, les gestes qu'on pouvait avoir par rapport à ça. Donc aujourd'hui, un petit peu dans la continuité de ça, ça va être le rôle de la forêt, quel est l'intérêt de la forêt dans ce problème du réchauffement climatique. Est-ce que c'est une solution durable? En tout cas, la France, dans sa politique contre le réchauffement climatique, y croit fortement. Voilà, donc aujourd'hui, parler de cette partie du problème ou de solution, Hubert Voiry, qui est déjà venu pour parler d'autre chose. Donc, je vais le laisser se présenter.
Merci, Jean-Joseph, pour l'introduction. Donc, je suis retraité de l'ONF, l'Office national des forêts, donc où j'ai réalisé toute ma carrière. Donc l'ONF qui gère les forêts des collectivités et les forêts de l'État, qui est très bien représentée spécialement dans le département de Vosges, qui est particulièrement boisé. Et donc à côté d'une activité à l'ONF, donc même au sein de l'ONF, je me suis spécialisé aussi dans l'étude des champignons et leur interaction avec la forêt.
Voilà, avec la publication d'un premier livre qui date d'il y a 2-3 ans.
Un premier livre qui est sorti en 2022, intitulé « Pas de forêt sans champignons », pour illustrer le fait que la forêt, c'est évidemment des arbres, du bois, bien sûr, surtout dans les Vosges, c'est très important. Mais donc, il y a un deuxième architecte, en quelque sorte, les champignons, qui participent à son fonctionnement. Et dans le thème que nous allons aborder aujourd'hui, on évoquera aussi ces aspects.
Avec en particulier d'ailleurs la parution d'un deuxième livre sur le thème
dont on parlera plus tard. Voilà.
Voilà. Alors donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. La forêt est considérée comme un puits de carbone, c'est-à-dire qu'elle est capable d'absorber du carbone que notre vie quotidienne, notre vie tout simplement, donc nous fait dégager sous forme de gaz carbonique ou autre. Hein, en tout cas, des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique dont on commence à subir les conséquences, mais dont le phénomène qui devrait s'amplifier avec tous les rapports du GIEC, etc., qui nous alertent depuis déjà longtemps, mais face auxquels on a parfois du mal à réagir. Donc, il y a une stratégie forestière mise en place au niveau de la France, et l'ONF est un partenaire très important. Et Hubert, tu disais, le département des Vosges est un département très forestier. Il y a effectivement l'ONF et puis il y a aussi les propriétaires forestiers privés qui, eux aussi, sont responsables de la manière dont ils gèrent leur forêt et qui se posent aussi des questions sur comment la forêt va réagir face au réchauffement climatique. On voit autour de nous le bostriche, tous ces arbres qui dépérissent, les hêtres, même les chênes. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut régénérer notre forêt? Et puis, comment on peut effectivement imaginer la forêt de l'avenir et une forêt qui, si possible, permettrait de régler, ou en tout cas d'essayer d'apporter sa contribution au problème du carbone, du stockage du carbone.
Oui, rappelons déjà que donc, le dioxyde de carbone, donc c'est un gaz qui est un des gaz qui participe à l'effet de serre. L'effet de serre aussi permet quand même à la Terre d'avoir une température moyenne, donc suffisante pour la vie.
Sans aucun effet de serre, il n'y aurait pas de vie, puisque la planète serait beaucoup trop froide.
Hein. Voilà, c'est ça.
Donc après, le souci, c'est à quel niveau hein. Il s'est stabilisé à un certain niveau, le carbone,
il s'était stabilisé, et puis depuis deux siècles, on a une augmentation. Alors, ce n'est pas le seul gaz à effet de serre, hein. Il y a aussi le méthane, hein, qui est beaucoup plus puissant. ainsi que des oxydes d'azote hein, qui peuvent être émis par d'autres...
Par l'agriculture,
par exemple, et voilà, etc. Hein. Mais disons que le CO2, on va l'appeler CO2, donc dioxyde, c'est de ça dont on va essentiellement parler. Alors, c'est un gaz aussi très important, puisque c'est grâce à lui que se constitue la matière vivante. Hein. Donc, par le processus, on rappelle, de la photosynthèse. Donc, le processus de la photosynthèse, c'est un processus un peu extraordinaire, donc, qui concerne toutes les plantes qui ont de la chlorophylle, donc en particulier les arbres. Il intègre par une réaction, donc, qu'on appelle la réaction de photosynthèse, qui se fait grâce à la présence de lumière, grâce au soleil. Donc, le CO2 de l'atmosphère plus de l'eau qui arrive au niveau des feuilles se transforme en sucre. Hein, et il y a aussi un dégagement d'oxygène qui est un déchet dans cette réaction.
Mais qui a permis à la vie de se développer sur Terre. Il a fallu que l'oxygène soit libéré des oxydes, etc. Il a fallu avoir un taux d'oxygène suffisant pour permettre à la vie de se développer sous une nouvelle forme, la forme actuelle. Voilà.
Donc, à travers cette photosynthèse, donc les arbres grossissent. Si on prend l'exemple des arbres, puisque c'est ce qui va me concerner principalement. Donc grossissent, donc accumulent du volume. On parle de mètres cubes en forêt. Et donc c'est cet accroissement donc, qui capte. On parle aussi de séquestration, il y a le terme séquestration. Donc qui séquestre du carbone donc, à l'intérieur de la matière organique, qui par la suite, ce bois bien sûr est utilisé soit par les hommes, soit si la forêt n'est pas exploitée, il retourne dans le cycle de la forêt.
Juste un petit aparté, en fait, cette photosynthèse concerne toutes les plantes. Hein. Effectivement, on pourrait aussi avoir consacré une partie à la séquestration du carbone dans les sols et dans l'eau, les autres formes de matière organique. Toutes les plantes qui poussent captent le carbone. Et puis, quand elles pourrissent, on restitue une partie dans le sol. Donc ça, c'est plutôt sur le thème de l'agriculture, le rôle de l'agriculture dans la séquestration du carbone. L'agriculture, sous une certaine forme, quand elle utilise des engrais chimiques, libère donc des gaz à effet de serre, en particulier sous la forme d'oxyde d'azote. Après, il y a la responsabilité de l'agriculture, en particulier dans l'élevage bovin. Mais il y a aussi des possibilités des formes d'agriculture qui séquestrent aussi le carbone. Mais ça, ce sera plutôt le sujet d'une autre émission. Donc, excuse-moi Hubert de t'avoir coupé. Reprenons sur la forêt.
Non, mais on pourra l'aborder. Et c'est de mixer justement agriculture et forêt.
Voilà.
Comme une des solutions.
C'est peut-être une des solutions, au moins en partie, pour l'avenir.
On pourra revenir dessus. Donc, si on revient à notre forêt qui produit du bois, donc qui séquestre du carbone, si cette forêt est en bonne santé, donc il y a un certain nombre de mètres cubes par hectare et par an qui sont produits. Donc c'est vraiment un puits de carbone. C'est globalement encore une réalité à l'échelle nationale, à savoir qu'on considère qu'il y a entre 15 et 20% du CO2 qui est séquestré par les forêts actuellement.
Du CO2 produit en France.
Produit...
Par les Français.
Non, tu sais, au niveau de l'échelle mondiale,
c'est par rapport aux chiffres français.
Oui, exact. Voilà. Si on estimation par rapport à la production française. Donc, ce n'est pas négligeable. Ordre de grandeur de 15 à 20 %. La forêt, actuellement, est un puits de carbone. Bon, je donne des chiffres qui ont tendance quand même à baisser, puisque, bon, on en parlera peut-être après, la forêt est confrontée à un certain nombre de dépérissements. Donc, elle ne peut pas non plus remplir complètement ce rôle. Mais ces chiffres sont aussi une explication du passé, à savoir qu'il y a eu un gros effort de reboisement après-guerre, qui n'était pas pour lutter contre le changement climatique ou réduire le pourcentage de gaz carbonique, mais était plus dans une visée de disposer de davantage de bois de papeterie. Hein. Donc ce qui explique encore, qui est encore bien visible dans le paysage, dans les Vosges, beaucoup de reboisement d'épicéas, de ce qu'on appelait les AJ, des choses comme ça qui commencent à être exploitées. Donc, tous des jeunes forêts qui ont remplacé, en fait, des prés, donc qui, eux, ont accumulé, forcément, en poussant, accumulé des mètres cubes, du carbone. Donc, on en a encore. Donc, ça s'est fait aussi à l'échelon national, hein, donc, par le Fonds forestier national. Donc tous ces jeunes boisements donc, ont
capté beaucoup de carbone.
Donc c'était une situation bénéfique.
Non seulement ils ont capté beaucoup de carbone, mais en plus ils ont bénéficié au départ de l'augmentation de la concentration dans CO2 pour avoir finalement une meilleure croissance. Jusqu'à il y a quelques
années.
Hein, voilà.
Oui. Si on retourne un petit peu en arrière, il y a une vingtaine d'années, bon, le taux de CO2 était important, mais les conditions, par exemple, climatiques étaient favorables à la croissance. Donc ça a été mesuré, il y a eu un pic de croissance, une sorte de dopage des forêts. Et maintenant, c'est fini cette période, donc on a plus
cette période. Oui, maintenant, les conditions climatiques, effectivement, sont moins favorables. Et du coup, on est effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur le fait que cette solution qui, au départ, est apparue comme très évidente au début de la réflexion, on va dire, de l'État, face aux stratégies par rapport au réchauffement climatique. Donc, finalement, la France, avec un couvert forestier important, plus que certains pays, et puis un climat relativement tempéré sur toute une partie, donc qui pouvait espérer que, le puits de carbone de la forêt pouvait apporter un petit peu, être au maximum, on va dire, et bien finalement, depuis quelques années, avec les sécheresses successives, et donc du coup, la souffrance de la forêt face au réchauffement, effectivement, cette capacité diminue.
Oui, la forêt, c'est à la fois la solution, mais et aussi elle subit en même temps. Donc c'est pour ça que l'équation n'est pas si simple. Donc là, le slogan qui veut dire, planter 1 milliard d'arbres, hein, qui a été lancé par le président de la République, hein, disons que la formule est simple, un peu trop simpliste, quoi. Planter des arbres, ça peut remédier, mais encore faut-il que les arbres soient adaptés au climat actuel. Et encore faut-il que les arbres ne remplacent pas des forêts déjà existantes relativement en assez bonne santé. Quoi.
Parce qu'une forêt ou un arbre qui est en dépérissement, non seulement ne va plus capter de carbone, mais il va continuer à respirer quand même et donc en dégager. Oui. Et c'est un petit peu ça qui est un peu... Parce que souvent, il y a très longtemps déjà, on parle de l'Amazonie, poumon de la planète, etc. Mais une forêt en équilibre, elle ne capte pas forcément énormément de carbone parce qu'elle en dégage aussi.
Oui, là, c'est des sujets à débat, comme dire. À l'échelon mondial, les trois grands massifs équatoriaux étaient réputés être des puits de carbone, c'est-à-dire le bassin de l'Amazonie, bassin du Congo, bassin de l'Indonésie. Actuellement, ce serait plus le bassin du Congo qui joue encore ce rôle, mais pour l'Amazonie, ce n'est plus véritablement un puits de carbone actuellement.
Voilà, pour qu'un arbre joue son rôle de puits de carbone, il faut qu'il soit en bonne santé. Une forêt qui est en dépérissement, eh bien, l'équilibre est rompu et donc le rôle de puits de carbone ne joue plus son rôle de puits de carbone. Donc d'où l'inquiétude et d'où beaucoup de réflexions, d'études, en particulier de l'INRAE, pour essayer d'anticiper qu'est-ce qui va se passer dans 20, dans 30 ans avec 1,5, 2 degrés de plus, avec une forêt, avec des sécheresses, une forêt stressée par les sécheresses, hein, parce qu'en fait, c'est pas seulement la température globale, mais c'est les épisodes de stress, de sécheresse qui bloquent la croissance. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm, riders on storm, riders on the storm.
Voilà, donc on reprend le cours de l'émission. Donc Hubert, on en était à parler un petit peu du problème du dépérissement qui fait que la forêt, ben, sous l'impact du réchauffement climatique et des sécheresses successives, donc, n'est plus en parfaite santé.
Oui, donc la forêt souffre, donc il y a une essence qui est bien concernée, donc ça peut être aussi facilement visible dans le paysage, donc ce sont les épicéas. Les épicéas qu'on peut percevoir, des petits bosquets secs, des arbres isolés qui commencent à rougir. Donc ça, c'est le plus spectaculaire et grave aussi pour cette essence, puisque donc en pleine, l'épicéa qui avait été introduit un peu trop facilement donc était complètement dévasté. Et en montagne, il y a quand même des foyers d'attaque. Et certaines régions, on a encore un petit peu préservé dans le massif vosgien, mais le massif jurassien souffre particulièrement. Et puis d'autres régions en Europe. Donc la cause, c'est ce qui était appelé après-guerre le Bostrich, qui maintenant on l'appelle le scolite, donc ça correspond plus à la réalité. Donc son vrai nom, c'est Ips typographus, donc le scolite typographe. Typographe parce que donc il crée des galeries sous l'écorce qui ont des formes, des formes particulières. Enfin, c'est assez esthétique, en fait. C'est tout simplement des larves hein, qui après fécondation donc, de deux insectes, donc, se développent sur l'écorce et grignotent en faisant des galeries jusqu'à se développer pour devenir adulte et après poursuivre un nouveau cycle.
Donc, ce colite qui existe depuis longtemps, mais les conditions de plantation, tout ça a fait qu'il s'est développé. Hein. La monoculture, donc des grands espaces avec uniquement des épicéas, ont favorisé. Effectivement, il est plus facile aux scolites de sauter d'un arbre à un autre quand il n'y a que des épicéas autour. Dans une forêt mélangée, c'est différent. Et puis aussi le fait que l'épicéa, effectivement, comme tu disais, a été planté aussi en dehors de son aire géographique naturelle.
Oui, il a été planté, bien sûr. Il y a plusieurs raisons. Quoi. Il était facile à planter. Il reprend très facilement. C'est-à-dire le plant, une fois planté, reprend sans problème. Et après, donc, pour sa qualité de bois, hein, donc à la fois bois de papeterie, puis après bois de menuiserie. Quoi.
Et puis sa croissance rapide aussi, permettait un retour sur investissement rapide. Hein. Donc après, c'était la déprise agricole, les terrains agricoles qui ne valaient pas grand-chose ou qui n'étaient plus utilisés. Pour certains, c'était un placement pour la génération suivante. Donc, c'était construire un capital pour la génération suivante qui allait pouvoir l'exploiter et puis profiter des bénéfices, quoi. Si finalement c'était quelque chose qui a pu bien fonctionner pendant toute une période, le dérèglement climatique a tout déréglé.
Oui, c'est une maladie qui existait déjà. C'est pas une nouvelle maladie. Pour les autres essences, on parlera un petit peu des maladies nouvelles.
Voilà.
Cela étant, donc, c'est un gros impact, y compris donc pas uniquement ici, mais en Europe. Et donc la question se pose ensuite, effectivement, si on a des peuplements que d'épicéas qui sont attaqués, donc de leur renouvellement.
Et donc, sous cette forme.
Hein, voilà. Et donc le renouvellement, donc logiquement, ne se fait pas en épicéa. Donc il faut introduire soit des essences, d'autres essences que l'épicéa, bien sûr. Donc soit du sapin, soit des pins. Enfin, il y a toutes des essences qui sont adaptées au futur climat, quoi.
Possible. On sait maintenant quand même qu'une forêt mélangée est moins fragile à tous ces agresseurs.
Disons qu'elle est aussi plus résiliente. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout simplement le fait que si une essence dans une forêt mélangée, si une essence est en difficulté, les autres prennent le relais. Et puis donc, il y a déjà une forêt installée, donc ça se fait plus facilement, oui. Oui. Mais je veux dire, dans le Jura, le problème se pose aussi pour un peuplement mélangé, à savoir que les épicéas sont quand même attaqués, y compris dans le peuplement mélangé. Donc ce qui montre aussi quand même l'ampleur du problème climatique.
Il est possible que dans 20 ou 30 ans, il n'y ait plus d'épicéas que à partir d'une certaine altitude, sauf dans des conditions particulières, des zones un peu humides, etc. C'est sûr.
Là, je reviens d'un voyage dans les Dolomites, autour des célèbres stations de Val Gardena ou Cortina d'Ampezzo. Il y a beaucoup d'épicéas et on voit des grosses attaques de scolytes.
Voilà. C'est sûr. Après,
donc, en plus, une altitude
plus au sud par rapport à nous. Encore,
une altitude plus importante, mais dans les Alpes, oui, c'est ça, vers 1500 mètres.
En sachant que, effectivement, on peut considérer que peut-être dans 20 ou 30 ans, nos conditions climatiques seront celles qui sont actuelles à 100 ou 500 kilomètres au sud, plus au sud. Hein. Donc, on peut voir la végétation qui existe, laquelle va peut-être être notre future végétation.
Disons que c'est déjà une réalité, le fait que les arbres se déplacent en quelque sorte, remontent un petit peu dans les zones alpines, ils ont tendance à remonter d'une centaine de mètres, donc la couverture forestière, c'est déjà une réalité. Cela étant, tout cela, c'est aussi assez complexe parce que c'est dynamique, hein, Donc si du jour au lendemain on arrivait à bloquer les émissions gaz à effet de serre, on pourrait trouver des solutions. Enfin, pour les forestiers, ce serait plus simple, et pour beaucoup aussi. Mais là, on est parti sur une dynamique. Les politiques font beaucoup d'annonces, mais là, la réalité, c'est que les taux augmentent. Hein. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de baisse.
Voilà, on rappelle que la forêt, c'est juste une petite partie de la solution. Ça fait partie de la solution, mais ce n'en est qu'une partie. L'agriculture en est une grosse partie, mais tous nos gestes quotidiens en font partie. Hein. Donc, si tout le monde arrivait à réduire son émission de carbone à 2 tonnes par an, en tout cas, on en est loin, puisqu'on est autour de, je ne sais plus, en France, pas loin de 10 tonnes, je crois. En France, hein, mais il y a d'autres pays qui ont plus. Mais il y a aussi des pays qui vivent largement en dessous de nos moyens à nous et qui produisent moins aussi.
Concernant la forêt, on n'a pas tout traité. Là, on a traité juste, surtout l'aspect séquestration du carbone sur des peuplements. Donc, il y a le bois. Le bois, donc, c'est un matériau noble aussi. Bien sûr, donc, il y a l'aspect stockage. Le fait de stocker du bois, donc, c'est du carbone qui est stocké. Et plus longtemps on le stocke, moins on libère de carbone. Donc, ça, c'est vrai, par exemple, pour des meubles. Hein,
Vrai déjà pour les arbres dans la nature.
C'est vrai aussi.
Une partie du stock de carbone qu'on a emmagasiné, ben effectivement, c'est les forêts qui sont vivantes aujourd'hui. Donc les forêts sous la forme de l'arbre, ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on ne voit pas, donc la partie dans le sol, les racines, mais aussi tout ce qui a été décomposé, les feuilles qui tombent, etc., qui se décomposent et apportent de la matière organique et du carbone dans le sol.
Donc c'est le stockage en forêt, si on vient, in situ, et donc le stockage in situ. Donc moins la décomposition est rapide, meilleur est le stockage du carbone. C'est-à-dire moins ça se décompose rapidement, plus c'est favorable au stockage du carbone. Donc on peut faire aussi ce que je disais au départ, pour les matériaux bois, c'est pareil, plus on les stocke longtemps, plus c'est favorable. Donc plus on utilise le bois sous forme de matériaux de charpente, de meubles,
construction.
Plus ces matériaux durent longtemps, meilleur c'est pour le stockage du carbone.
Oui, puisque en plus, donc à la fin d'un meuble, par exemple, effectivement, plus on va le garder, plus on va stocker longtemps le carbone. Parce qu'une fois qu'on va l'éliminer, on va l'éliminer comment ? On va le brûler, on va le mettre en déchetterie, etc. Où il va pourrir et du coup, il va dégager du carbone. Le carbone qui est stocké, voilà.
Donc la charpente de Notre-Dame, c'était un bon stockage de carbone avant 2019.
Voilà. Et les incendies font d'ailleurs partie des causes de libération de carbone.
Oui, donc on a parlé un petit peu des maladies au niveau des arbres. On a fait un focus sur les scolytes. Bien sûr, il y a d'autres maladies. Et il y a un fléau aussi, bien sûr, les incendies. C'est un méga... Donc l'incendie, du jour au lendemain, tout le carbone s'en va. Quoi.
Voilà,
donc,
tout ce qui a été stocké est libéré.
Donc c'est très, très déférable. Donc la lutte contre les incendies en forêt, c'est une priorité, effectivement. C'est évident. Là, il y a une prise de conscience. Mais après, on se rend compte qu'une fois que le feu, les méga-feux... on commence à en avoir en Espagne, en France, Pyrénées-Orientales, dans les Landes. Dans les Landes, c'était pratiquement un méga feu inarrêtable.
Dans les Vosges, c'était je ne sais plus quand, là, qu'il y a eu des incendies du côté de Brouvelières, la forêt de Champs, où ça a été... ce n'était pas un méga feu, mais à l'échelle des Vosges, c'était un méga feu quand même.
C'était nouveau, quoi. non, ce n'est pas encore. Ça n'a pas pris des proportions gigantesques. Ça a été maîtrisé. Mais je veux dire, c'est... Oui, c'est un grave danger évident, ça, c'est sûr.
Revenons au stockage. Donc, on parlait du stockage in situ dans la nature et puis autrement du stockage dans le bois d'œuvre, dans le...
construction, ameublement,
etc. Tout ce qui est meuble dans nos... tout ce qui est fait en bois. Donc, ça peut être aussi dans l'espace public, pas seulement dans les maisons. Et puis, donc, il y a la substitution.
Alors, le troisième, on parle de les trois S. Donc, séquestration, stockage. Donc, le troisième, c'est substitution. C'est le fait de dire, si on utilise du bois à la place d'autres énergies comme le béton, pour l'exemple du béton, le fer, par exemple, des constructions en bois, hein, si on revient. Donc, ça veut dire qu'on va économiser la fabrication de ces autres constituants. Donc, on économisera le coût carboné de ces autres industries.
Voilà, non seulement on va stocker, mais en plus, on va éviter des émissions de carbone. Et donc, il y a une autre substitution qui est, en fait, l'utilisation du bois énergie à la place du pétrole. Hein. Donc c'est un peu ce qui est un peu la politique actuelle d'installation de chaudières bois en remplacement des chaudières fuel ou chaudières gaz. Mmh. Hein. Mais donc avec des limites sur le bois énergie. Hein.
Oui, donc en fait là c'est un peu les trois axes théoriques. Hein. Après la question, est-ce qu'on peut gagner sur tous les tableaux ? C'est la question, hein. C'est pas toujours, c'est présenté souvent de façon très très favorable, mais en fait, on peut pas gagner sur tous les tableaux. Hein. Donc en fait, pour le bois énergie, c'est bien dans une certaine mesure, dans un circuit court, hein, avec peu de transport de bois, mais on peut pas considérer qu'une grosse centrale de bois énergie avec des transports sur 400-500 km avec des camions, ça se fait, hein, pourtant. Donc c'est neutre en carbone. Et pourtant, c'est l'argument qui était avancé pour le bois énergie. Les industriels ont avancé le fait de dire c'est neutre en carbone. Donc,
parce qu'en fait, donc, on considère que c'est du carbone qui a été stocké, qui va être libéré dans son utilisation sous forme d'énergie, mais qui va être du coup recapté par des nouvelles plantations qui vont remplacer ces plantations-là. Mmh. Donc après, qui va être recapté en combien de temps ? Si c'est des plantations qui vont mettre dizaines d'années à recapter le carbone, voilà. Donc du coup, le bois énergie est effectivement critiquable, on va dire, sous certains aspects. Oui. Après, il y a aussi donc le fait qu'on a toujours utilisé depuis très longtemps donc le bois comme source d'énergie. Maintenant, il y a quand même une amélioration au niveau des rendements, en particulier quand on fait de la cogénération, c'est-à-dire que non seulement on fabrique de la chaleur, mais on peut fabriquer de l'électricité en même temps, qui remplace effectivement une centrale gaz, etc. Et puis, donc, du coup, ce qui est intéressant aussi donc dans la politique actuelle, c'est le développement des réseaux chaleur. Hein, les réseaux chaleur, plutôt qu'avoir plein de gens qui ont des centrales qui fonctionnent avec un certain rendement, on fait une centrale plus grosse qui éventuellement fait de la cogénération et un réseau chaleur. Après, ça va de pair avec l'isolation, etc., puisque, en fait, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne va pas utiliser.
Oui, oui. Donc là, on élargit la question.
Oui. Alors, revenons donc, du coup, on a vu les trois S, séquestration, stockage, substitution.
Alors, il y a aussi une donnée aussi à prendre en compte, c'est que le fait que les sols aussi stockent du carbone. Hein. Donc, c'est pas une quantité négligeable, hein, c'est autant, voire plus que la quantité aérienne dans une forêt donnée. Il y a plus de carbone stocké. Donc ce carbone, il ne faut surtout pas le libérer, en fait, c'est ça aussi l'enjeu. Mais disons que dans les forêts dont on parlait précédemment, quand on est parti d'une prairie à une forêt, non seulement le stock de carbone aérien, mais aussi le stock de carbone souterrain a augmenté. Donc là, augmente. Mais il atteint aussi une limite, un seuil.
Jusqu'à une certaine limite.
Jusqu'à une certaine limite.
Flaquer mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi, tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux. Je suis un pauvre type, j'aurai plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois. qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez au milieu de la figure. Je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Voilà, donc, auprès de mon arbre, le grand chêne. Le grand chêne sera-t-il encore là dans 20 ou 30 ans? Voilà, en tout cas, donc, les chênes souffrent aussi. Dans nos secteurs, le hêtre un peu plus que le chêne. Après, quelle sera la forêt dans 20 ans?
Oui, donc les chênes, par exemple, la chenille processionnaire, là, qui est apparue depuis une dizaine d'années, quoi, qui s'est développée dans le département, donc qui profite un peu de situation de stress des arbres, donc pour manger les feuilles, donc qui les affaiblit. Chenille processionnaire, ça fait partie des insectes qui existaient avant, un peu comme le scolyte, donc un ennemi naturel. Par contre, pour le frêne, bon, vous avez entendu parler sûrement de la chalarose, ou calarose, hein, c'est le CH grec, calarose. Donc là, qui fait partie des maladies qui sont importées, c'est-à-dire que du fait des échanges commerciaux, donc en plus, donc ça se rajoute au changement climatique, là, on peut avoir des introductions de pathogènes, donc c'est le cas. Donc ce sont des frênes de Mandchourie qui ont été introduits avec ce champignon. Les frênes de Mandchourie étant des porteurs sains, en quelque sorte, ils n'étaient pas malades. Par contre, ils ont donc introduit ce champignon qui est passé sur le frêne européen. Et donc, depuis les années 90, en commençant par les pays de l'Est, la Pologne, ça n'a pas été détecté tout de suite. Ça a été perçu un peu comme une sécheresse au départ. Hein, la maladie, ce n'est pas facile non plus quand on a un nouveau pathogène qui arrive de diagnostiquer, surtout si c'est un champignon. Hein, c'est difficile à diagnostiquer. Mmh. Et donc, ça s'est fait progressivement. Et en France, les premiers foyers ont été détectés en 2010. Et c'est là qu'on a pu vraiment diagnostiquer le... Donc c'est un petit champignon et donc qui provoque la nécrose en fait des rameaux.
Voilà, c'est un petit peu comme tout le monde connaît un petit peu la rougeole qu'on connaissait en Europe et qu'on a introduit en Amérique, qui a décimé beaucoup de populations primitives en Amérique, hein, parce qu'ils n'étaient pas immunisés, puisqu'ils ne connaissaient pas. Donc effectivement, les chênes de Mandchourie connaissaient déjà... Les frênes de Mandchourie connaissaient la chalarose et avaient appris à se défendre. Par contre, dès que la chalarose est arrivée dans une population de frênes qui, eux, n'avaient jamais connu la chalarose, eh ben, automatiquement, ça a fait des ravages. Alors maintenant, petit à petit, sans doute, certains frênes vont développer des résistances et transmettre peut-être, pour certains, génétiquement, à leur descendance, une certaine résistance à la chalarose. Voilà. Donc du coup, il y a des recherches aussi génétiques qui sont faites sur la sensibilité à l'intérieur d'une même espèce d'arbre. Est-ce qu'il y a des sujets qui résisteraient mieux, conditions climatiques, etc. Il y a aussi des recherches génétiques qui sont faites.
Oui, donc on ne va pas dresser tout le panneau des maladies, mais disons que ça surajoute au problème de sécheresse, hein, pour les arbres. Donc là, on a cité deux exemples. Il y a aussi le châtaignier, hein, qui avait une maladie qui était le chancre, qui s'était pas mal développé dans les années 70, et c'est donc qu'il s'en est remis en quelque sorte. Mais il y a une autre maladie qui s'appelle l'encre. Donc l'encre, c'est plus le chancre, c'est l'encre. et qui là cause des dégâts, donc en particulier en région parisienne, hein, donc sur pour des arbres qui sont déjà installés. Donc la question des maladies, elle ressort aussi quand on veut introduire une nouvelle essence, hein. Parce que là on a parlé un peu de ce qui passe pour l'existant, mais quand on veut introduire une essence qu'on pense qui sera adaptée au climat, il faut aussi qu'on
réfléchir
aux maladies possibles. Et en fait, plus on prend des arbres exotiques d'autres continents, l'expérience montre, plus on prend de risques. C'est-à-dire que l'arbre ne contracte une maladie ou soit sensible à une maladie qui existe. Donc ça a été vrai pour des sapins venant des États-Unis, hein, ça s'est vérifié dans le passé. Pour des pins, par exemple, comme le pin, il y a un pin qui a été beaucoup introduit dans la région d'Épinal juste après, dans les années 60. Et qui avait toutes les qualités, le pin Vémouth, donc pareil, un pin américain, et qui a attrapé une maladie. Donc après, qui a été complètement... on en trouve encore quelques sujets, mais plus beaucoup, quoi. Il est complètement dévasté par une rouille, par un champignon. Toute cette question d'introduire des essences, c'est assez délicat, quoi. On peut dire qu'on prendrait moins de risques en introduisant des essences qui existent, par exemple, dans le sud d'Europe, voire continent nord-africain pour nous, quoi. Donc, c'est ce qui se passe un peu avec les introductions de cèdres. Apparemment, ça fonctionne mieux. Bon, il pourrait y avoir des introductions de sapins méditerranéens, des choses comme ça, qui, a priori, on prendrait moins de risques. Mais ce qui est, il faut bien être conscient, là, on est un peu dans une situation inédite au niveau de la forêt. Ce changement brutal de climat... interpelle beaucoup.
Oui, parce qu'en plus, il y a des espèces effectivement plus au sud, mais si on les implante ici, bah ici, on a aussi des gelées tardives, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus le climat qui est complètement celui du sud. On a des sécheresses qui créent des stress, en fait, oui, hein, oui. Mais on a toujours des conditions quand même avec effectivement les gelées tardives qui ne sont pas favorables, par exemple, à certains pins. On ne peut pas introduire une espèce de pin maritime ou je ne sais pas trop, je ne connais pas trop le sujet, mais il y a des pins, le pin Laricio, je crois aussi, qui est sensible aux gelées tardives et qui, du coup, pourrait être adapté, mais après, il va être adapté, puis hop, un jour, une gelée va arriver, puis il va tout... Donc, c'est pas si simple.
C'est pour ça qu'on peut pas compter que sur des renouvellements par plantation. C'est pour ça que ce qu'on appelle la régénération naturelle en foresterie, c'est-à-dire, c'est les semis, les graines, hein, les graines des arbres, faire des semis et donc faire des successeurs, hein, en quelque sorte. Ça aussi, ça rentre aussi dans les solutions, forcément, en complément. Et de toute façon, est aussi moins coûteuse qu'une plantation.
La solution, c'est peut-être de mélanger un petit peu toutes les stratégies, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, effectivement, favoriser la régénération naturelle et peut-être petit à petit introduire des nouvelles espèces. Peut-être introduire dans une forêt, avoir aussi plusieurs stratégies au niveau de la gestion, avoir des arbres qu'on consacre, qu'on va destiner au bois d'œuvre, au stockage à long terme, et puis d'autres arbres qui, effectivement, seront là pour d'autres raisons.
Et puis donc, un message aussi à faire passer, on parlait beaucoup de carbone, de forêt, mais la forêt, ça joue plusieurs rôles. Enfin, les rôles écologiques, filtration de l'eau, maintien des paysages, récréation, loisirs. Il y a beaucoup de rôles qui sont joués par la forêt dans notre société, qui ne sont pas forcément... rémunéré. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser au niveau du...
Après, ça, c'est une question aussi, effectivement, plus globale, qui aussi concerne l'agriculture, pas seulement la forêt, mais aussi l'agriculture, et puis tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va soutenir les stratégies qui sont favorables au stockage de carbone, quoi. On va peut-être faire la dernière pause musicale, et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on a fait un peu le tour du rôle de la forêt.
Oui, oui. Il y a aussi un rôle un peu méconnu dans des champignons, donc pour le fonctionnement de la forêt et aussi pour l'atténuation du problème climatique, enfin pour la santé des forêts en fait. Tout cela, donc, parce que les champignons donc auxiliaires et des champignons auxiliaires des arbres qui facilitent la nutrition des arbres, donc forcément ils sont aussi acteurs de leur résistance face au changement climatique. Et également, comme ils sont nourris en carbone par les arbres,
oui, c'est une symbiose
qui participe aussi au stock de carbone dans le sol. Donc certains arbres sont plus avec un enracinement plus profond, donc associés à certains types de champignons, donc favorisent le carbone stockage plus profond. Et les autres, les champignons plus familiers, dont certains sont comestibles, les cèpes qui sont en train de pousser en ce moment, un peu plus dans le sud-ouest, mais un peu dans les Vosges. Donc ceux-là sont associés aux arbres, donc participent au stockage du carbone
plus en surface.
Mmh. Et puis, il y a les décomposeurs, bien sûr, qui ont aussi un rôle, parce que si décomposent lentement, finalement, donc ça permet aussi au bois de ne pas se décomposer trop vite. Donc, selon telle ou telle espèce, telle ou telle compétition, donc ça joue aussi sur le stockage du bois, donc du carbone dans le sol.
Les décomposeurs de matière organique, d'où l'importance aussi dans la forêt de laisser des rémanents, en particulier toutes les branches, ne pas exploiter absolument tout dans la forêt. Quoi.
Oui, donc là, on est juste typiquement en opposition avec le bois énergie qui souhaite récolter tous les petits bouts de branches, ce qu'on appelle les rémanents. Donc là, c'est de la nourriture. Ça, c'est généralement, c'est de la nourriture pour les champignons, donc pour la forêt.
Voilà, pour stocker le carbone dans le sol.
Et aussi pour stocker le carbone dans le sol. Voilà, donc tout ça, je l'ai relaté un petit peu dans une partie de mon bouquin, vers la fin, donc où il y a le rôle des champignons dans la forêt. Donc c'est paru en 2022, mais c'est encore d'actualité.
Pas de forêt sans champignons.
Pas de forêt sans champignons.
Et donc ça, c'est donc le livre que tu as écrit il y a quelques années. Ouais. Et puis donc, il y en a un nouveau.
Il y en a un nouveau qui est plus généraliste, donc je pense qu'il sera beaucoup plus accessible, qui est plus petit, donc plus facile à lire, qui est plus général sur le rôle des champignons au cours de l'histoire.
Voilà.
Donc les champignons ont joué un rôle dans l'histoire qui n'est pas toujours très connu, ça a pu provoquer des procès de sorcières, des maladies ou des choses plus bénéfiques. Hein. Donc pas seulement des champignons qui se mangent, mais des champignons...
Voilà, 10 champignons qui ont changé la vie des hommes.
Donc je ne donne pas les noms, sinon je dévoile trop ce qu'il y a dedans. Voilà.
Donc tout ça, c'est paru aux éditions Actes Sud.
Hein. Voilà.
Autrement, d'ailleurs, les champignons ont joué un rôle, ont constitué une étape pour l'apparition de la forêt sur la...
Oui, des végétaux,
sur la planète, hein.
Des végétaux en général.
Donc voilà.
On considère que les champignons ont permis aux végétaux de coloniser la Terre, de sortir de l'eau, quoi. Donc avant, il y avait que des bactéries qui étaient sur la terre ferme. Donc les champignons associés à des algues ont permis de créer un milieu favorable, puisque autant quand on est dans l'eau, donc on n'a pas besoin de racines, de choses comme ça. Une fois qu'on a un milieu aérien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les champignons sont venus apporter un coup de main.
Voilà, la forêt illustre des phénomènes qui sont un peu généraux. C'est-à-dire qu'il y a de la compétition entre les arbres, il y a aussi de la coopération, en particulier symbiose avec les champignons.
Les deux existent en forêt, donc c'est pas un monde de bisounours.
Il y a de la compétition importante.
Il y a aussi coopération et compétition. Même compétition entre champignons. Enfin, ça aussi, ils peuvent se battre.
On a encore un petit peu de temps, donc on peut peut-être un peu parler.
On peut élargir.
Voilà, le problème du carbone.
Donc le problème du carbone dans les milieux naturels aussi, donc il est stocké aussi en grande quantité, par exemple dans les tourbières, donc en général dans les milieux humides. Donc c'est favorable puisque la décomposition ne se fait pas, donc elle est très très lente. Donc les matières organiques s'accumulent. Il y a certains champignons adaptés qui se retrouvent dans ces milieux. Et donc ça c'est important. Et la grosse question aussi, c'est par rapport à l'agriculture. Donc l'agriculture a tendance à éliminer complètement les arbres, de défrichement total. Donc on se retrouve dans certaines plaines avec des immenses territoires sans arbres, uniquement avec des cultures.
Et y compris dans les Vosges.
Y compris dans les Vosges.
Dans une partie du département.
Donc là, la solution qui consiste à réintroduire des arbres, des haies, on a détruit les haies. Donc c'est favorable au stockage du carbone et c'est aussi favorable
à l'agriculture.
À l'agriculture.
Donc c'est ce qu'on appelle en particulier l'agroforesterie, qui est encore un petit peu quelque chose de différent, puisque c'est la présence de l'arbre au sein des cultures. C'est les haies plus des arbres plantés, des arbres isolés. Mais effectivement, les haies sont un grand réservoir de biodiversité, comme le dit Michel, qui nous a rejoint en cours de mission.
Voilà. Et l'agriculture a un grand rôle à jouer en tant que stockage de carbone. D'ailleurs, c'est aussi dans l'intérêt de la fertilité des sols, de stocker plus de matière organique.
Voilà, des sols bien vivants avec un stock important de carbone sont des sols fertiles et il y a des pratiques agricoles qui favorisent effectivement ce bon équilibre des sols.
Mais c'est une remise en question des pratiques trop agressives comme le labour profond, l'usage massif des pesticides. Donc là, il faudrait revoir complètement une vision de l'agriculture dans cette optique-là.
Ça fera peut-être l'objet d'une émission particulière. On arrive à la fin de cette émission. Merci Hubert pour ta participation. Et puis Michel, tous nos voeux pour se remettre en forme, ça va. Voilà, merci. Merci à vous de votre écoute.